Vous écoutez, on lit pour vous.
Comment l'évolution en est-elle venue à faire pousser des doigts ? Un texte de Frédéric Bourigaud, paru le 17 septembre 2025 dans Le Devoir. Comment l'évolution en est-elle venue à faire pousser des doigts ? Une étude révèle que leur origine est à chercher au sein du cloaque des poissons, l'organe regroupant les systèmes intestinal, excréteur et reproducteur. Le cloaque plutôt que les nageoires. L'idée a de quoi étonner, car depuis 30 ans, les gènes nécessaires à la fabrication de nos doigts sont connus et sont les mêmes que ceux ayant permis le développement des nageoires des poissons. Mais les gènes ne sont que des ouvriers qui obéissent à des ordres. Alors, qui a donné l'ordre? Dans le génome, il existe d'immenses morceaux d'ADN dont la fonction est de décider du fonctionnement de chaque gène. Quand est-ce qu'on l'active? Quand est-ce qu'on l'arrête? Est-ce qu'on en met plus? Est-ce qu'on en met moins? C'est ce qu'on appelle une région régulatrice. Développe auprès de l'agence France Presse Denis Duboul, professeur du Collège de France et professeur honoraire à la Faculté des sciences de l'Université de Genève. Il est co-auteur d'une étude publiée par la revue Nature qui cherche à comprendre comment les poissons ont évolué pour, il y a à peu près 400 millions d'années, commencer à sortir de l'eau et coloniser la terre ferme en devenant des vertébrés avec des doigts. Cette équipe internationale pilotée par l'Université de Genève, UNIGE, avec l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, le Collège de France et les universités de Harvard et de Chicago, a d'abord repéré une région régulatrice commune aux poissons et aux souris, à l'origine du développement des nageoires et des membres des souris. Puis, pour la première fois, ils ont été en mesure de l'ôter à leur génome. Cela a été rendu possible par le développement de la technique du CRISPR, K9, sorte de ciseau moléculaire permettant l'édition d'un génome qui a valu à la Française Emmanuelle Charpentier et à l'Américaine Jennifer Doudna le prix Nobel de chimie en 2020. On a enlevé cette grande région de l'ADN du poisson et on n'a rien vu comme conséquence pour les nageoires, explique Denis Duboul. Pourquoi cette région est là si, quand on l'enlève, elle ne fait rien dans la nageoire? En fait, on s'est aperçu qu'elle enlevait l'expression de ces gènes dans le cloaque. Autrement dit, une région régulatrice du génome, initialement dédiée à la formation du cloaque des poissons, a été recyclée par l'évolution pour guider le développement des doigts chez les vertébrés terrestres. C'est un nouveau niveau de régulation qui a été recyclé, soulignent les chercheurs, ouvrant la voie à de nouvelles recherches et interrogations quant aux mécanismes de l'évolution. Le point commun entre le cloaque et les doigts est qu'ils représentent des parties terminales. Parfois la fin de tube dans le système digestif, parfois la fin des pieds ou des mains, soit les doigts. Tous deux marquent donc la fin de quelque chose, explique Aurélie Intermann, ex-doctorante de l'UNIGE, désormais post-doctorante à l'Institut Stowers aux USA, et co-autrice de l'étude réalisée dans le cadre de son doctorat. Quand nos ancêtres, les grands poissons, ont commencé à coloniser le milieu terrestre, le début de notre aventure, ces doigts sont apparus car il y avait un terrain sur lequel l'évolution a pu jouer pour pouvoir démarrer ses gènes dans la partie la plus distante, les nageoires, et ça fait des doigts, conclut le professeur Duboul. C'était « Comment l'évolution en est-elle venue à faire pousser les doigts ?» Un texte de Frédéric Bourigaud, paru le 17 septembre 2025 dans Le Devoir.
La rentrée littéraire 2024, littérature étrangère, les valeurs sûres. Des propositions de lecture d'Audrey Martel, parues le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires. Débutons ce tour d'horizon de la rentrée littéraire avec les valeurs sûres. Ceux et celles qui sont parvenus avec les années à fidéliser un lectorat et à gagner le respect des critiques, et dont les nouveaux livres sont rarement décevants. Véronique Holmy publiera cet automne « Le courage des innocents » chez Albin Michel, son 16e roman, directement inspiré par les recherches qu'elle a effectuées durant l'écriture de son précédent texte « Le gosse ». On y rencontre Ben, qui est épris de justice, et qui rêve d'un monde meilleur. Le jeune homme cherche à retrouver son petit frère, dont la garde est entre les mains de la protection de l'enfance. Sa quête le mènera jusqu'en Ukraine, à la rencontre des enfants déportés par la Russie. Sur son chemin, il découvrira la complexité des sentiments humains, ce qui transformera radicalement son existence. En plus de Véronique Holmy, les éditions Albin Michel publieront bien sûr le nouveau texte d'Amélie Nothomb. Dans l'impossible retour, roman qui s'inscrit dans la veine autobiographique de l'autrice belge, Nothomb se replonge dans son rapport au Japon. L'éditeur français nous donnera également à lire les nouvelles pages d'autrices chouchous telles que Mélissa D'Acosta, Valérie Perrin et Viola Ardone. Arturo Pérez Reverte quitte les éditions du Seuil après une relation commerciale de 30 ans. Il rejoint la collection Du monde entier chez Gallimard avec la parution de L'Italien, une histoire d'amour et de mère se déroulant durant la Seconde Guerre mondiale. Ce nouveau livre s'ouvre sur la rencontre entre une libraire espagnole et un plongeur de l'armée italienne échoué sur les côtes de Gibraltar. Des années plus tard, le narrateur, un journaliste, qui pourrait bien être une version rajeunie de l'auteur lui-même, retrouve la trace de cette femme, officiant désormais dans une librairie de Venise. Une épopée qui pique notre curiosité dès les premières pages. Avec le talent de conteur qu'on lui connaît, l'auteur espagnol est ici au meilleur de sa forme. Tandis que le précédent roman de Colm Tóibín s'intéressait à l'auteur Thomas Mann, Long Island chez Grasset ramène à l'avant-scène le personnage d'Alice Lacey. Les habitués de Tóibín reconnaîtront sans doute le nom du protagoniste central de Brooklyn, publié il y a une vingtaine d'années et porté au grand écran en 2015. Le nouveau roman de l'auteur débute quand Alice découvre que son époux des deux dernières décennies a eu un enfant d'une relation extra-conjugale. Face à cette situation incongrue, Alice choisit de retourner en Irlande pour faire le point. Toutefois, la confusion de la femme s'accentue quand elle tombe sur son béguin de jeunesse. L'écrivain irlandais relate avec sensibilité les tourments d'une femme confrontée aux aléas de la vie. Avec La Reine du Labyrinthe chez Robert Laffont, son quatrième roman, Camille Pascal, historien de formation et lauréat du Grand Prix du roman de l'Académie française en 2018, vient assurément confirmer sa qualité d'écrivain de romans historiques d'envergure. Il nous entraîne cette fois dans la France de Marie-Antoinette, peu de temps avant la prise de la Bastille. Entre scandales politiques et complots, Camille Pascal brosse le portrait d'une reine qui court à sa perte et d'une courtisane qui n'a pas froid aux yeux. Jour de Ressac, chez Vertical, le nouveau roman de Maëlys de Kerangal s'ouvre de façon bien mystérieuse au moment où la narratrice reçoit un appel. Au bout du fil, la gendarmerie l'informe que son numéro a été retrouvé dans la poche d'un cadavre inconnu gisant sur la digue dans la ville portuaire du Havre. Un lieu qu'elle a pourtant quitté depuis longtemps et où elle n'a pas remis les pieds depuis plus de 20 ans. Cet événement provoque un ressac dans sa vie, puisqu'il la replonge dans ses souvenirs et dans l'histoire tragique de la ville. Maëlys de Kerangal nous offre ici un nouveau roman captivant qui pourrait bien se tailler une place dans les listes des grands prix littéraires. Cœur d'amande, chez Mialet Barou, de Yasmina Kadra, nous mène à la rencontre de celui qui deviendra peut-être le personnage le plus attachant de cette rentrée littéraire. Nestor vit avec une forme de nanisme et qui ne l'empêche pas de prendre soin de sa grand-mère vieillissante. Le jour où il perd son emploi de vendeur de chaussures, il se retrouve à errer dans les rues de son quartier de Montmartre, peuplé de ses amis, de petits malfrats au bon cœur. Imaginez La Bête de David Goudreau, chez Stanké, propulsé dans l'univers du fabuleux destin d'Amélie Poulain, et vous aurez une idée de ce qui vous attend dans ce roman tendre et rempli d'humour. Miguel Bonnefoy est un grand raconteur. Ses romans prennent chaque fois des atours de fables épiques dans lesquelles des vies ordinaires se transforment en destins comparables à ceux des plus grands héros de l'histoire. Fidèle à sa réputation, Bonnefoy raconte dans « Le rêve du jaguar » chez Rivage la vie d'un bébé abandonné qui sera bien vite recueilli par une vieille muette. Doté d'une grande débrouillardise et d'une détermination folle, le poupon deviendra un entrepreneur doué, puis un chirurgien réputé. L'histoire mythique de la famille qu'il engendrera s'entremêle à celle du Venezuela, le pays qui les verra naître. L'exotisme du lieu, la brillance du style et l'intelligence pétillante des personnages font de ce roman un vrai plaisir de lecture. C'était la rentrée littéraire 2024, Littérature étrangère, les valeurs sûres. Des propositions de lecture d'Audrey Martel, parues le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires.
Pier Giorgio Pulizzi. Le charme discret des crimes sardes. Une entrevue réalisée par Chantal Fontaine, parue le 17 septembre 2024 dans Les Libraires. C'est la Sardaigne qui nous appelle lorsqu'on plonge dans le riche univers des polars de Pier Giorgio Pulizzi. Avec sa plume évocatrice et ses personnages uniques, l'auteur raconte son pays par le prisme de ses coutumes. Dans ses histoires qui ont toute une saveur accrocheuse et mystérieuse, l'écrivain évoque des crimes inspirés de rituels ancestraux ou pigés dans une actualité mordante. Alors que l'auteur prendra part au Festival Québec en toutes lettres, nous avons souhaité échanger avec lui question de vous mettre en appétit. Que ce soit dans « L'île des âmes » ou « La septième lune », dans « L'illusion du mal » ou « Le chant des innocents », votre œuvre est traversée par un rythme particulier et un territoire qui devient tangible même pour ceux qui ne l'ont jamais foulé. Si vos personnages sont récurrents, la série n'est pas si linéaire. Vous vous amusez à nous surprendre, si? Oui, c'est bien cela. J'aime écrire des histoires qui varient dans les nuances de genre littéraire, tout en restant toujours dans le macro-genre du noir, mais en jouant avec le thriller, le polar, le roman policier, le roman psychologique et social, et ainsi de suite. Mais surtout, j'ai choisi une forme de série littéraire particulière, différente de la série traditionnelle où l'on trouve un seul protagoniste, un petit groupe de personnages secondaires et toujours le même cadre. J'admire ceux qui réussissent à maintenir cette forme de série pendant des années, en restant originaux et en trouvant toujours des histoires intéressantes à raconter. Dans mon cas, j'ai préféré me concentrer sur une série élargie, avec plusieurs personnages principaux, Certains émergent davantage dans certaines histoires, prenant l'épaisseur de protagonistes et peut-être que dans le roman suivant, ils deviennent des personnages secondaires ou ne sont même pas présents. Plusieurs cadres. Le fait que Strega et son équipe appartiennent à une unité spéciale me permet de les déplacer sur tout le territoire italien. Et même les histoires elles-mêmes diffèrent souvent dans leur nature. Parfois, elles sont plus intimes et explorent les relations personnelles ou familiales. D'autres fois, elles abordent des thèmes plus brûlants, liés à la technologie. Je pense à l'illusion du mal. Et parfois, ce sont des ethnopolars, c'est-à-dire qu'elles explorent l'âme la plus ancienne de certains territoires, par exemple la Sardaigne, en exploitant l'archéologie et l'anthropologie. J'aime apporter de la fraîcheur et du dynamisme à cette série afin d'offrir aux lecteurs des émotions et des histoires toujours différentes. Dans L'île des âmes et dans La septième lune, vous mettez en scène des meurtres rituels inspirés du folklore sarde. Est-ce que ce folklore est encore présent, vivant, dans la Sardaigne d'aujourd'hui? Non. Du moins, pas avec l'intensité présente dans le roman. Malheureusement, de nombreuses traditions de cette terre se perdent, car elles étaient transmises oralement des personnes âgées aux plus jeunes. Le problème est qu'en Sardaigne, il y a depuis des années une hémorragie de jeunes qui quittent l'île à la recherche d'un avenir meilleur sur le continent. Des villages entiers se dépeuplent, surtout dans l'intérieur des terres, et nous assistons à l'apparition de véritables villages fantômes dans certaines zones. Souvent, les anciens n'ont plus personne à qui confier ce bagage de traditions, de souvenirs et de mémoires, et tout se perd. Ce qui émerge à la place, c'est le côté folklorique de ces traditions. Je pense au carnaval sarde et à de nombreuses fêtes villageoises qui perdent souvent la véritable philosophie derrière cette culture, devenant simplement des attractions touristiques. Et il me semblait donc juste de capturer ces traditions, au moins dans le roman, pour les figer sur le papier, afin de se souvenir des croyances d'autrefois et de la manière dont nos ancêtres vivaient. Dans vos romans, les personnages ont tous une histoire, un passé, même ceux qui traversent brièvement l'intrigue. Vous nous avez fait connaître Mara Ray et Eva Croce, puis Vito Strega et dans La septième lune, Clara Pontecorvo. On s'y attache. La reverra-t-on? Clara est un personnage que j'aime énormément. Son ironie, la légèreté qu'elle apporte à l'équipe et ses mésaventures avec des hommes et des prétendants improbables ont immédiatement conquis le cœur des lecteurs, ainsi que le mien. Elle reviendra sans aucun doute dès le prochain roman et, au fil de la série, elle prendra de plus en plus d'importance. Vos personnages féminins ont un caractère bien trempé, sans tomber dans des clichés. Mara Ray et Eva Croce, notamment, doivent s'apprivoiser. Outre leur personnalité, il y a également leurs origines qui s'affrontent. Est-ce que le territoire participe au choc de leur rencontre? La Sardaigne et la Lombardie sont-elles si différentes que leurs citoyens le jugent? Sans aucun doute. Les deux régions sont très différentes l'une de l'autre, que ce soit par leurs caractéristiques paysagères, leur culture et leurs traditions, mais aussi par la vitesse à laquelle on y vit. En Sardaigne, le rythme est beaucoup plus lent et détendu, tandis que Milan est une ville au rythme effréné, où l'on est habitué à courir du matin au soir. Eva et Mara représentent deux extrêmes qui, une fois en contact, semble se compléter. Mara complète Eva et vice-versa. Si seules, elles sont des femmes fortes, mais aussi fragiles et imparfaites, ensemble, elles forment un duo d'enquêteurs impeccables. Bien sûr, leur relation n'est pas toujours facile, mais je pense que, roman après roman, le respect professionnel entre elles est en train de se transformer en une belle et solide amitié. Les plaisanteries entre la Sardaigne et Milan continueront sans aucun doute, car il y a d'un côté un peu d'arrogance et de l'autre un peu d'envie. Vous écoutez Pier Giorgio Pulixi, Le charme discret des crimes sardes, une entrevue réalisée par Chantal Fontaine, parue le 17 septembre 2024 dans les libraires. Malgré le fait qu'il n'ait pas toujours été parfait, Vito Strega est un homme bienveillant, à l'écoute de ceux et celles qui l'entourent. Je crains que vous ne le connaissiez pas, mais pour nos lecteurs du Québec, Strega me rappelle un peu le Armand Gamache de Louise Penny. Cette gentillesse et cette écoute tranchent avec l'alcoolisme et l'amertume des enquêteurs que l'on a souvent vus par le passé chez d'autres auteurs. C'est important pour vous de proposer un homme équilibré? J'adore le commissaire Gamache. Je l'adore et je serai toujours reconnaissant à Louise Penny, grande et raffinée écrivaine, qui maîtrise parfaitement le trait psychologique tout en sachant plonger habilement au cœur de la psyché criminelle, d'avoir inventé ce personnage et la série se déroulant à Three Pines, un endroit où je m'installerai immédiatement sans hésitation. La lecture des romans de Louise Penny m'a sans aucun doute énormément influencé dans l'évolution du personnage de Strega. Gamache est un personnage extraordinaire, car son humanité est bouleversante. Il parvient toujours à toucher le cœur des gens, qu'ils soient bons ou mauvais, avec une gentillesse ferme. Sa rigueur morale, son éthique, sa capacité à prendre des décisions complexes, souvent des dilemmes éthiques, sans pour autant perdre son centre moral, font de lui bien plus qu'un personnage. C'est une personne réelle. Chaque fois que je lis un de ses romans, j'ai l'impression de rentrer chez moi, parmi mes amis, et son équipe, qu'il dirige avec leadership et respect, te donne vraiment l'impression d'en faire partie. L'évolution de Vito Strega depuis La Septième Lune est sans aucun doute due à mon coup de cœur pour l'inspecteur en chef Gamache. J'espère que Strega se débarrassera bientôt de ses démons intérieurs pour devenir un leader compatissant et charismatique comme Gamache. Mais surtout, un homme fort qui ne perd pas sa tendresse innée comme Armand. Je crois que nous avons besoin de figures de référence comme Gamache et Strega dans un monde où les protagonistes tournent uniquement autour de l'action effrénée, du cynisme et de l'impudence. Il y a de la noblesse dans la gentillesse. Et Gamache et Strega, à sa manière, possèdent cette noblesse qui l'élève au rang de héros littéraire. Votre livre, L'illusion du mal, est dangereusement actuel. Cette idée de se faire justice en direct en faisant participer les internautes est terrible. J'ai peur de vous demander ce qui vous a inspiré cette histoire. Malheureusement, j'ai été inspiré par la réalité qui nous entoure, et plus précisément par l'utilisation indiscriminée et totalisante que nous faisons d'Internet et des réseaux sociaux. Ils nous ont été présentés comme des outils à notre service. Mais je crois qu'en quelques années, nous sommes devenus les outils au service des réseaux sociaux et de leurs algorithmes froids, glaciaux et cruels. L'illusion du mal est également une métaphore littéraire du populisme et du vigilantisme violent qui traversait l'Italie il y a quelques années. Cela existe encore aujourd'hui, mais cela s'est légèrement atténué. L'idée d'un tueur en série populiste, pratiquant l'autojustice, qui utiliserait les réseaux sociaux et le côté sombre du web pour cibler ses victimes et impliquer le public dans ce gigantesque procès pénal virtuel me semblait être une photographie très précise de la situation politique et sociale de mon pays à cette époque. D'une certaine manière, la dépendance aux réseaux sociaux, aux téléphones intelligents et au web s'est encore accentuée après la pandémie de COVID. C'est un aspect très intéressant à raconter, surtout dans un roman policier, un genre particulièrement adapté à dépeindre la réalité. La librairie des Chats noirs, votre prochain livre, serait disponible au Québec en octobre. Que pouvez-vous nous en dire? Ce roman est assez différent de la série Trailer avec Strega et son équipe. Ici, nous sommes dans un roman policier classique. Le cadre est celui d'une petite librairie indépendante spécialisée exclusivement dans les romans policiers appelée la Librairie des Chats noirs. Les deux chats, qui sont en quelque sorte les mascottes de cette librairie, s'appellent, sans surprise, Miss Marple et Poirot. Marzio Montecristo, le libraire, rude mais au cœur tendre, avec son club de lecture qu'il surnomme affectueusement les détectives du mardi, aide de temps en temps la police sur des affaires particulièrement complexes en utilisant les connaissances en matière d'enquête qu'il a acquises après de nombreuses années à lire des romans policiers. Marzio et son groupe de lecture ont souvent des intuitions géniales qui conduisent les vrais policiers à identifier le coupable. Le tout est ponctué de nombreuses références littéraires et d'une forte dose d'ironie qui atténue le drame. J'ai décidé d'écrire ce livre, car je pense qu'un auteur doit, de temps en temps, explorer des territoires narratifs différents pour éviter de tomber dans les écueils de la routine créative. De plus, j'aime ces romans policiers à l'ancienne. Ils ont une qualité vintage, rassurante, qui me rappelle ma préadolescence lorsque je lisais des auteurs comme Conan Doyle, Poe, Ellery Queen et, bien sûr, Agatha Christie. Je voulais aussi atteindre un public qui n'aime pas les romans noirs ou violents ou ceux trop ancrés dans la réalité, car ils préfèrent une dimension plus rassurante et réconfortante. En outre, écrire un roman policier classique n'est pas du tout facile. Le mécanisme narratif doit être parfait. Rien ne peut être laissé au hasard, et cela m'a obligé à me remettre en question, en m'appuyant sur une structure différente de celle de mes précédents romans. Je suis très heureux de l'avoir fait, car je me suis beaucoup amusé, et mes lecteurs aussi. En fin de compte, c'est le plus important. Offrir à nos lecteurs quelques heures agréables lorsqu'ils ressentent le besoin de se déconnecter de la réalité pendant un moment. C'était Pier Giorgio Pulixi, Le charme discret des crimes sardes, une entrevue réalisée par Chantal Fontaine, parue le 17 septembre 2024 dans Les libraires.